la semaine passée, on a vu la bénédiction, c'était le message de passage 24-25 d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Et cette semaine, depuis un mois, je savais que j'étais précis pour être un mois. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner pour le mois? Et il y a des choses que l'Esprit de Dieu nous parle. Combien croient que Dieu nous parle? Il me parle à moi, il parle à toi, il parle à qui bien, qui veut parler. Donc, moi, j'ai reçu des choses, je veux vous le partager. Ce matin, je voudrais partir, on a parti l'année avec la bénédiction, et je voudrais partir l'année avec une bonne ou mauvaise sagesse. On a besoin d'une bonne sagesse, est-ce que c'est vrai? Donc, ce matin, on va regarder bonne ou mauvaise sagesse. Donc, si vous avez vos Bibles, ou on va aller sur PowerPoint, le numéro qui est là aussi pour le mois, je suis ici, ceux qui veulent nous appeler, nous écrire, mais vous avez tout en main pour nous rejoindre, nous arrivons le vendredi, donc vous pouvez nous rejoindre en tout temps. Donc, gênez-vous pas, on est là pour ça. Amen. Donc, on va lire Jean, chapitre 3, verset 14 au verset 18. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne vous pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. » Seigneur, on veut te dire merci ce matin pour ces temps de louange, ces temps d'adoration, ces temps, Seigneur, où tu prends le temps de nous faire du bien, de nous ressourcer dans ta présence, Seigneur. C'est tellement bon, la louange et l'adoration. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous as accordé. Également, Seigneur, merci pour ceux qui sont déplacés. Seigneur, merci pour ceux que tu as déjà guéri à travers la prière. Et merci, Seigneur, pour la parole qui est agissante dans nos vies. Père, bénis le tout dans le beau nom de Jésus. Amen et amen. Donc, pour commencer, je dirais Jacques, chapitre 3. Nous parle qu'on peut reconnaître les pièges et de comment les éviter. C'est-à-dire, du chapitre 3, verset 1 à 12, Jacques nous parle d'une langue incontrôlée. Du verset 14, du verset 16, ça nous parle de la sagesse charnelle. Et le verset 17 et 18 qui nous parle de la sagesse d'en haut, soit la sagesse spirituelle. Donc, vous savez, dans l'Église, dans le cœur de Jésus-Christ, il y a beaucoup de conflits. C'est pas juste ici, les conflits, l'Église a vie avec ces choses-là. Donc, si on regarde la sagesse terrestre, la sagesse charnelle, la sagesse diabolique, donc, ça n'emporte pas de fruits. Donc, il y a de bons zèles qui construisent l'œuvre de Dieu. Il y a aussi le zèle qui peut détruire l'œuvre de Dieu, donc par le manque de sagesse. Un zèle amer, vous savez que Jacques nous parle, ça ne construit pas l'unité entre nous, ça détruit ce que l'Esprit de Dieu veut construire. Un zèle amer, c'est fondé sur la chair et ça amène l'orgueil, ça amène le trouble, ça amène la haine, les rivalités, les animosités, les querelles, etc., etc. Et le zèle amer également amène l'esprit de dispute entre les frères et les sœurs. Et cela, ça ne donne pas non plus gloire à Dieu. Vous serez d'accord avec ça? Ce zèle apporte des disputes, ça emporte des querelles. Jacques, chapitre 3, verset 16, « Car là où il y a un esprit amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre de toutes sortes et de mauvaises actions. Le zèle amer et l'esprit de dispute favorisent le désordre de toutes choses. On s'accroche, on se dispute, on est mécontent, on est critique, on est jugement. » Et cela, ça brise l'unité du corps de Christ. Il n'y a pas d'amour dans ça. Allô? Il n'y a rien de positif dans ce que je suis en train de vous dire ici. On peut dire que c'est la sagesse humaine. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Le désordre n'est rien d'autre que du chaos. Les ténèbres aiment mettre du désordre entre nous. La haine, la chicane, la rancune, la... Le rôle du diable, c'est de nous diviser, c'est de nous faire mal. Et le rôle de l'ennemi, c'est de mettre des frictions avec le peuple de Dieu. Et ça fait du brisement entre nous. Et le pire, c'est que c'est des blessures qui sont longues à guérir. L'ennemi et les démons veulent nous détruire. Écoutez bien, mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre dans un zèle amer et dans le désordre spirituel. 1 Corinthiens 14, verset 33, « Car Dieu est un Dieu, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Donc, l'église, c'est un lieu de paix. C'est un lieu d'oasis, c'est un lieu d'unité, c'est un lieu de fraternité et de développement spirituel. Proverbe 20, verset 3, « C'est une loi pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. » Donc, c'est un bien-être de s'abstenir des querelles. Tout conflit emporte des déceptions et des brisures. J'aimerais dire, c'est pas le fruit. Notre fruit, c'est pas se briser entre nous, c'est pas se faire la guerre entre nous. La guerre est à l'extérieur pour aller chercher le monde qui connaît pas Jésus. Mais notre guerre à nous, c'est d'apprendre à s'aimer. La vraie guerre est à l'extérieur, et pas ici. Puis c'est pas normal que des chrétiens, qu'on vit des divisions ensemble, qu'on se brise ensemble. C'est pas l'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ, c'est être capable de s'aimer, de se respecter et d'aller plus loin ensemble. Alléluia. Donc, on doit marcher dans la paix avec ça. La Bible sommaire, Paul nous dit, j'ai pris la Bible sommaire, verset Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, j'ai pris la sommaire ici, là, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Comme enfant de Dieu, donc à notre nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il a mis dans notre cœur? C'est l'amour. Romains 5:5. Lisez Romains 5:5, c'est l'amour de Dieu que nous avons reçu. Nous avons reçu le sceau de l'Esprit. Donc, ça veut dire que je fais partie de la famille de Dieu. La semence que j'ai dans ma vie, c'est l'amour de Dieu aussi pour les autres. Et dans la famille de Dieu, il faut enlever et demander à notre Dieu qu'il vienne faire une œuvre de changement, de purification. Éphésiens, chapitre 4, verset 31, je prends toujours la version sommaire, il dit « Toute amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. » Bon. Amertume, irritation, colère, éclat de voix. Tout cela, c'est charnel. Là, ton frère, c'est très, très charnel. C'est très, très, très charnel. Oh, c'est plus que charnel, je ne veux pas vivre avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas ça que je t'ai appelé à faire. C'est l'état de l'homme pécheur à son état pur. Il n'y a aucune spiritualité dans ces choses-là. Le Saint-Esprit, on aime parler du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit fait ci, Saint-Esprit fait ça. Oh, Saint-Esprit. On met toutes les sauces. Mais pensez-vous que le Saint-Esprit est content aussi quand on a des mauvais comportements? Allô? Croyez-vous qu'il est fier de nous puis se mettre les bretelles? Hey, je suis fier de lui, il vient de tuer son frère. Pensez-vous qu'il est content? Non. Rien ne glorifie Jésus dans cela. Il n'y a pas de place, je le dis bien ce matin, avoir de la bagarre ensemble. Mettez vos gants de boxe à terre. Mettez ça de côté. Éphésiens 4, 32. Toujours la même version. Ça nous dit ici, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, la grâce de Dieu, nous sommes appelés à être le reflet de l'amour et de la grâce de Dieu. Nous devons apprendre d'être là pour les autres. Si une personne a besoin d'aide, sois là pour la personne. Ça va demander des sacrifices, mais fais-le pareil. Sois sensible aux besoins des autres. Paul nous dit, soyez bon, ayez de la compassion pour les autres. Également, si vous êtes blessés ensemble, mais dit aussi, apprenez à vous pardonner. Puis je vais aller plus loin dans le pardon, dans un autre sujet un petit peu plus tard. Le plus dur, je vais être honnête avec vous, en tant que ministre ou juste en tant que chrétien, je suis pas mieux de vous, là. J'en ai eu des bagarres. J'en ai eu des prises de position. pas vous, hein? Sûrement pas vous autres. Mais en tout cas, moi, je vais être assez honnête pour vous le dire, j'en ai eu de ces choses-là. Et le plus dur dans nos bagarres, c'est être capable de reconnaître ses erreurs. Allô? Être assez humble et dire, oui, c'est vrai, j'ai manqué le bateau. Regardez bien, je vais aller encore plus loin. Matthieu 5, versets 23 et 24. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens te présenter et donne ton offrande. Donc, c'est un pile sur ton orgueil. Écrase l'orgueil. Puis sois un homme. On parle aux hommes. Quand je dis sois un homme, mais là, c'est le temps d'être un homme. Va vers qui de droit? Va régler ces choses. 1 Jean 4, 21. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime son frère. Donc, Jésus a donné sa vie pour nous sauver, pour nous unir. Il faut prier que le Saint-Esprit, si vous êtes blessé, qu'il emporte une huile de guérison. Si votre cœur a été blessé, brisé par des événements, pour quelque raison que ce soit entre vous, il faut se libérer de ces mauvais sentiments. Si tu ne veux pas rester, je le dis fortement, si tu ne veux pas rester sous l'emprise du diable et qui veut te manipuler, qui veut te faire accroître toutes sortes de mensonges face à tes sentiments, et face aux autres, tu dois, et souvent nous vivons dans la présomption, on pense que l'autre pense de ça de moi. Ça, c'est la présomption. Libère-toi de cela. Le pardon, c'est d'être capable d'accorder avec humilité, d'être humble et dire, je te demande pardon. Libère-toi. C'est dur de se libérer. Parce que pourquoi? C'est l'orgueil, on a peur de s'humilier. L'âme puissante que l'Église a, c'est l'amour. Il n'y a pas de plus grande âme que nous avons dans l'Église d'être dans l'amour des uns avec les autres. La meilleure façon d'être victorieux sur l'ennemi, je vais développer ce matin, Jean chapitre 4, verset 5 au verset 8. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Il accorde une grâce, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Jacques nous parle d'une façon assez claire avec ça. Vous savez, le plus dur des plus durs, je dirais, dans une vie chrétienne, c'est une vie de transformation, une vie de brisement. Et c'est pourquoi que Jacques nous cite, verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en vous. » Donc, le jour qu'on est né de nouveau, notre nouvelle naissance, nous avons été libérés de la condamnation et de l'esclavage du péché. On est d'accord avec ça. Au point de vue que le Saint-Esprit est venu faire son habitation en nous. Nous avons reçu l'Esprit de gloire dans notre vie, l'amour, la force, la sagesse en chacun de nous. Dieu chérit notre vie par le sang de Jésus-Christ, car nous sommes devenus justice de Dieu en Christ, par le sang de Jésus. Je vais aller plus loin. Jésus a payé chèrement le prix de nos péchés. Par notre régénération, nous sommes une nouvelle naissance, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit par sa venue dans ta vie. Le Saint-Esprit a nettoyé, a lavé notre vie. Donc, elle est nettoyée, ma vie. Donc, il faut qu'elle reste propre. Allô? Donc, je suis appelé à marcher dans cette sainteté avec le Seigneur. Nous sommes régénérés, justifiés, sanctifiés, un jour glorifiés. Mais le Saint-Esprit nous amène à vivre un nouveau standard dans la grâce et dans l'amour, d'être unis ensemble. Vous savez, j'aime cette image d'une perle. Ça prend des années à une perle, à une huître de donner une perle. Et quand on va avoir une perle, donc, on met un irritant dans l'huître, un petit grain de sable ou quelque chose qui va irriter l'huître. Et ça va tellement irriter l'huître que, qu'elle va faire son mécanisme, il va délaisser, elle va, comment je pourrais dire, elle va respirer, je pourrais te dire, quelque chose qui va envelopper son irritant, puis avec des années, comment?
Secréter.
Donc, avec les années, elle va faire une belle perle. Et parfois, bien, Dieu nous forme en travers pour faire de nous des belles perles. Alléluia! Il y a des irritants qui nous forment aussi, puis parfois, donc, Dieu veut faire de nous des perles précieuses, soit les fruits de l'Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, jalouse notre vie. Il est fier de nous, mais il n'est pas fier de mes mauvais comportements. Il n'est pas fier de mes péchés, puis pas fier de mon orgueil. Est-ce que ça a du sens? Le Saint-Esprit est prêt à nous accorder quelque chose de bien meilleur que ça, soit d'entrer dans la culture et dans la mentalité du royaume de Dieu. Jacques, chapitre 6, 4, verset 7. Au contraire, il nous accorde une grâce aux excellences. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». L'amour de Dieu par le Saint-Esprit, c'est que nous avons changé de royaume. Et il faut délaisser l'orgueil de notre vie. On a tous l'orgueil à quelque part. Soyez honnêtes, là. Allô? On est tous un peu orgueilleux à quelque part. N'ayez pas peur de le dire, là. Moi, je vais vous le dire, on a tous de cela, là. Et de marcher, apprendre à marcher dans la nouveauté de vie et de marcher dans la justice de Dieu. Donc, nous devons entrer dans la grande porte de la vérité, découvrir l'amour du Père et de mettre en application la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous donner, je dirais, de la force pour affronter et surmonter nos faiblesses charnelles. Dieu le Père nous accorde une grâce plus excellente, une grâce qu'à chaque fois que c'est nécessaire, je dirais. La puissance de la croix, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous donne davantage grâce dans des fardeaux qui sont difficiles à supporter, davantage de force pour vivre dans la victoire, davantage de force pour s'humilier afin, si nous avons blessé des gens, pour aller vers le pardon, de t'humilier pour emporter la réconciliation par la puissance du sang. Également, il va te donner de la force également pour mieux aimer ceux que nous estimons le moins. Regardez bien. Luc, chapitre 6, verset 29. On va regarder quelque chose d'intéressant. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Jésus dévoile dans ce verset, si vous faites toute l'étude du verset. Donc, Jésus, il va prendre une arme très puissante. Donc, il est en train de dire aux disciples, j'ai une arme secrète pour ça. C'est l'amour. L'amour, c'est l'arme qui nous définit le plus efficacement. Lorsque Jésus parle de l'amour, il ne désigne pas simplement des sentiments humains, mais un sentiment d'un amour surnaturel. N'importe qui peut aimer ses proches. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais aimer nos frères et nos sœurs qui nous frottent, qu'on est incompatible de caractère, ça prend une force surnaturelle pour les aimer. Oh, j'ai rien entendu ici. Rien entendu. Dis à ton frère, pas facile. Oh, pas facile. Oh, Lord. Quand ça va bien, qu'on aime, ça va bien. Mais aimer ceux qu'on aime moins, c'est pas facile. Ça t'apprend une force surnaturelle qui va confronter ce courant, qui va contre-courant à ta chair. La puissance du Saint-Esprit, c'est une force qui brise la résistance charnelle pour nous amener à nous aimer. L'amour divin consiste, je dirais ce matin, à faire du bien même à ceux qui frottent ton caractère. Allô? L'amour de Dieu doit nous pousser à prier pour ces gens-là, afin que nos sentiments négatifs peuvent changer pour les aimer. Allô? Cela demande de la prière, ça demande de l'humilité, ça demande de la patience, ça demande de la sagesse, et ça demande la bonne respiration de retenir. Et surtout, du bon vouloir. Oh, j'ai rien à dire. Et surtout, du bon vouloir. Combien ils veulent mettre du bon vouloir? C'est silencieux. Oh, alléluia.
bénir ceux qui nous maudissent, demande de l'aide du Saint-Esprit pour aimer ceux qui nous maltraitent. Et en plus, de tendre l'autre joue, t'en manques pas mal. Sommes-nous réellement morts à notre vieille chair? Allô? En tout cas, moi, je vais être honnête avec vous, je suis pas tout à fait rendu là. Là. Encore bien du travail à faire sur ma vie face à ça. Mais Jésus nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres et priez les uns pour les autres. Donc, la puissance du Saint-Esprit est la force suprême qui nous emmène à la pleine victoire. Alléluia! Mais il faut être prêt à céder au changement. Ça s'appelle ça passer par la purification. Et c'est pourquoi que Dieu nous donne la grâce et l'amour et la force aux humbles, à celui qui s'humilie devant le trône de la grâce de Dieu. Dieu promet que sa grâce est agissante. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il s'ouvre à l'esprit brisé. C'est pourquoi qu'il est dit, Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Donc, à se soumettant à Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en action, parce que tout le monde peut lire la Bible et personne ne peut faire tout le contraire de ce qui est écrit. Hein? Et si on applique les choses, bon, on va voir les choses changer. Donc, le Saint-Esprit est là pour t'aider à fermer les portes de tout mauvais sentiment intérieur. Si vous avez de la faiblesse charnelle, donc ça peut ouvrir, écoutez bien, je vais aller plus loin, ça peut ouvrir des portes, oui, aux mauvais sentiments, mais tu peux te sentir oppressé par l'ennemi. Donc, si tu vis dans l'amertume, dans la haine, face aux autres, dis-toi, tu n'es pas contrôlé par un bon esprit. C'est de l'oppression. Et ça, il faut que ça soit guéri, il faut que ça soit enlevé. Il faut que ces choses-là partent de ta vie. Je dirais, plus que tu vas t'approcher du trône de la grâce de Dieu, plus que tu vas rentrer dans l'intimité avec ton Père, écoutez, mais le Saint-Esprit te donnera la force de fermer la porte à ces mauvais sentiments pour que tu sois vainqueur sur l'ennemi. Je vais aller plus loin. Il est vaincu. Nous prêchons un évangile que l'ennemi est déjà vaincu. Donc, il faut prendre l'autorité sur ces mauvais sentiments-là. Vous voyez, ça, je ne sais pas si vous êtes... On est tous humains, ça tourne tout dans ça. Là. Des fois, Seigneur, enlève ça de ma tête. Oh, Seigneur, touche-le, mange-le, touche. Hein? La moutarde nous monte au nez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Donc, ne te laisse pas empoisonner la vie avec ces choses-là, avec l'ennemi qui veut t'égorger, te faire mal. Présente-lui le sang du vainqueur. Alléluia. Toi, aie la foi, aie la confiance que Dieu peut changer la destination. Approche-toi, mets les choses au clair avec le Seigneur. Tu as le meilleur avocat, Jésus-Christ. Le meilleur avocat qui va prendre ta défense pour t'apporter la victoire. Jacques 4, 8, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jean nous dit de s'approcher du cœur de Dieu. Dieu désire une rencontre avec vous. Alléluia. Et je trouve ça bon, c'est ainsi les temps de prière, tout ça, parce qu'on veut voir la direction du cœur de Dieu, puis on veut du changement dans nos vies. Donc, quand on recherche la présence de Dieu, deviens l'ami du Père, deviens l'ami, reste ton cœur ouvert à ce qu'il veut faire, nettoie ton cœur, décharge-toi sur lui, libère-toi de ces choses-là. Il est le Dieu de la délivrance. La grâce, elle est là pour toi. Elle est là pour le cœur de Christ. Nous sommes appelés à rechercher la sagesse d'en haut pour notre bien-être spirituel. La sagesse de Dieu. Puis je vais rentrer plus loin, parce que le deuxième point, je vais arriver. La sagesse de Dieu veut nous amener à des bons comportements. Il y a des bonnes ententes entre nous. On n'est pas toujours d'accord, mais je vais en parler tantôt. Et c'est pourquoi que Jacques nous enseigne de rechercher ce qui vient d'en haut pour changer notre faiblesse charnelle à une sagesse divine et spirituelle. Proverbe 3, 5. « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. » Qu'est-ce qui est écrit après? « Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Donc, rechercher Dieu, c'est rechercher le conseil de Dieu. Rechercher la sagesse d'en haut, elle nous éclaire à prendre des bonnes décisions éclairées, réfléchies, pas des décisions qu'on va prendre sur un coup de tête. Sa parole nous révèle les conseils du cœur du Père. Notre façon de vivre, notre façon de comporter commence avec une relation forte et puissante, avec une bonne relation avec la parole de Dieu. J'aimerais lire avec vous Proverbe, chapitre 2, verset 3, verset 6, et après ça, on lira le verset 10. « Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu ouvriras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Verset 10, « Car la sagesse viendra sur ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. » Si on comprend, si on recherche le cœur de Dieu, c'est ce qu'on dit ici, soit sa présence, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toutes tes membres, de toutes tes forces, si tu t'inclines devant sa présence, si tu médites la parole de Dieu, tu vas comprendre l'importance d'une bonne conduite. Tu ne peux pas marcher à contre-courant. À quelque part, c'est là qu'on a dit tantôt, tu vas attrister le cœur de Dieu par les mauvais comportements. Ça rapporte avec la crainte de Dieu, le respect de Dieu pour toi, pour les autres, et surtout pour Dieu en premier parce que c'est l'obéissance. Donc, si on a une bonne relation avec le Seigneur, celui qui cherche Dieu va marcher dans la compréhension du cœur de Dieu. Dieu te donnera la sagesse. Pour bien te conduire, ça portera un fruit. Proverbe 2, 6, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. » Donc, la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, je dirais ce matin, se définit comme une capacité, écoutez bien, une capacité ou de prendre des décisions avec discernement et prudence. Elle inclut également la capacité de faire preuve de patience, de compassion, et de compréhension des perspectives des autres. Moi, j'ai beaucoup à apprendre dans ça. Pour vous, c'est pareil, là. On a beaucoup à aller chercher dans la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle est réfléchie. Si on cherche Dieu, la sagesse de Dieu, la recherche de la parole de Dieu, donc la sagesse de Dieu va se placer dans ton cœur parce que tu as la crainte de Dieu et tu veux obéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient déposer cette sagesse de Dieu en toi. Comme Salomon qui l'a demandé, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te donne? » Salomon a dit, « Seigneur, donne-moi de la sagesse. » Il n'a pas cherché l'or, pas cherché l'argent, il a cherché la sagesse de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous donner des conseils. Alléluia! La parole habite en nous, elle sera ton guide. Proverbe 2:10, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Wow! Sa parole fera les délices de ton âme. Donc, c'est-à-dire que la parole va te procurer un plaisir réel à la découvrir. Vous savez, les gens, en tout cas, ça c'est ma vie personnelle, moi, ma Bible, aux 3 ans, est changée. J'écris, je barbouille, je prends des notes, puis ici, puis là, quand je prie, il y a des choses qui viennent. Puis, ma Bible est neuve, là, puis elle est déjà pas mal éventrée. Donc, j'aime prendre le temps de comprendre, de fouiller, puis tout ça, c'est mon travail aussi, mais la parole de Dieu, elle m'anime. C'est ma vitamine. On mange le matin, on dit, mais non, bon, on va aller lire notre parole, on va prendre le temps. Commençons à chercher la face de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous change, c'est lui qui nous parle. Deuxièmement, on va aller plus rapidement, je vais essayer en tout cas de faire ça rapidement. Deuxièmement, regardons les bases de la sagesse divine. La sagesse d'en haut, Jacques, chapitre 3, versets 17 et 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Donc, le seul moyen d'arriver à cette grande sagesse, ou si on y arrive, c'est d'avoir une marche de l'esprit, une vie de l'esprit. Sa parole est notre guide. Job nous décrit la sagesse comme un fruit. Elle est pacifique, modérée, comme on vient de voir. Donc, la sagesse en haut, elle a un fruit. Elle est pénétrante par le Saint-Esprit dans notre vie, qui est déversée dans nos cœurs et que nous apportons ces vertus-là. Écoutez bien, la sagesse de Dieu, elle vient influencer notre conduite, puis je vais prendre le temps de le développer, afin de l'amener à glorifier Dieu le Père. Ça a rapport avec nos attitudes, ça a rapport avec nos comportements, ça a rapport avec nos caractères et ça a rapport avec notre humilité. Jean 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Le premier attribut de la sagesse, c'est la pureté. Elle est en pensée, elle est en parole, elle est en action. Le mot « pur », ça définit une intégrité morale, telle la chasteté d'une vierge qui se garde pure pour son mari. De même que nous devons garder nos cœurs purs. Éphésiens 5, 17, « Afin de faire paraître devant lui cette Église qu'on aime tellement dire, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Garde ton cœur pur dans tes pensées, dans tes actions. N'aie pas, je l'ai dit tantôt, n'aie pas de mauvaises pensées entre les autres, envers les autres. Sinon, prie que Dieu change ton cœur. » Qu'on ait le moins de choses possibles à dire sur vous. Protégez votre témoignage. Pas facile. On est humain. Mais mets des efforts pour le faire. Pas facile de changer. Je vous le dis, c'est pas facile. Le Saint-Esprit qui vit en nous est pur et saint. Et c'est que ce, vous êtes saint. Alléluia. Saint Manon. Saint Alain. Saint Serge. Sainte Lucille. Vous êtes saint. On ne prie pas là, pour les morts, on prie pour les vivants. On est saint. Donc, on est dans la sainteté de Dieu. Alléluia. Cette sainteté nous dirige dans la sagesse de Dieu. Soit tout mauvais sentiment qui est entre nous, ça doit disparaître. Soit toute discorde entre nous doit disparaître. La sagesse, elle se préserve de tout mal, mais elle veut faire le bien. Et comme nous sommes des êtres purifiés de tout péché, nous devons nous comporter comme des frères et des sœurs qui marchent dans la pureté du cœur entre nous. Vous voulez avoir une croissance, on veut grandir comme peuple, on veut grandir comme Église, bien, que ces sentiments-là soient bons entre nous. Qu'on ait le moins de choses possibles à dire entre nous. Et c'est pourquoi qu'on voit les quatre autres attributs. La sagesse d'en haut, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Deuxièmement, la sagesse d'en haut, elle nous amène à être pacifique. C'est quoi être pacifique? C'est d'éviter des conflits, des relations qui sont difficiles. Celui qui est pacifique recherche l'harmonie. Être pacifique, c'est une personne qui recherche l'unité, qui recherche l'amour et la paix. Il préfère éviter les conflits, les malentendus. Allô? Il cherche à vivre en harmonie avec les autres. Il ne recherche pas le trouble, mais l'unité. Éphésiens 4, 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » J'aimerais dire que si... Je le dis pour ici, là. Si nous n'attribuons pas une grande valeur à l'unité, il y a peu de chances qu'on va la réserver, qu'on va la préserver. Il y a du travail à faire dans chacun de nous pour ça. C'est pas ton Église, c'est son Église, c'est sa parole, c'est pas ma parole, mais c'est la parole qui nous éduque pour combien vient marcher. C'est le message d'en haut, la sagesse d'en haut, qui nous éloigne des préjugés et des médisances. Même si on ne voit pas les choses de la même façon, mais si nous traitons nos relations avec l'importance qu'elles méritent, nous avons beaucoup de chances de garder l'unité. Troisièmement, la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite modérée et conciliante. Qu'est-ce que Jacques veut nous dire avec ça encore? Quand nous parlons de la sagesse en haut, qu'elle est conciliante, modérée, ça nous parle d'une personne qui a un trait de caractère qui dégage de la douceur et de bon sens. Moi, quand on me parle de la douceur, des fois, j'ai un peu de misère avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, Jésus, c'était l'homme le plus doux. T'as-tu fait du ménage dans le temple, toi? Les tables, les pigeons, ça t'a revolé, tu penses? Il a fait une sainte colère. Est-ce que Jésus a fait des cinq colères avec les pharisiens? Il t'en a fait des méchantes colères. Il était doux, humble et doux de cœur. La douceur, ça ne veut pas dire que tu es une marionnette puis que tu n'as pas un mot à dire. Ça n'a rien à voir avec la douceur. Allô? La douceur, c'est... Ce n'est pas être brusque, mais c'est d'être aimable et être patient. L'apôtre Paul nous dit... Colossiens 3:12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Donc, comme des élus de Dieu, donc Paul nous dit de revêtir d'entraide, de miséricorde. Quand nous parlons d'entraide, de miséricorde, si vous allez dans le grec, dans les mots exacts, le mot « entraille », ça fait référence à des entrailles intérieures. Le cœur, le poumon, les reins, tout ce qui est à l'intérieur. Donc, Paul nous dit, ce qui est le plus profond en vous, ce qui devait être le plus profond en vous, il dit, revêtez-vous de ce qui est le plus profond en vous, l'amour qui emporte la douceur, soit aimable, soit pas détestable, ni irritant, mais aimable. On va un petit peu plus loin. Alléluia. Donc, est-ce qu'on a à apprendre un matin? Honnêtement, est-ce qu'on a du changement à faire? Alléluia! Amen. Je serais capable de lever mes deux pieds, je le ferais. Même prêt à céder, soit à renoncer à faire valoir juste tes points de vue personnels. Le chrétien ou la chrétienne qui est motivée et habitée par la sagesse d'en haut va suivre le Seigneur qui fut doux et bienveillant. Quatrièmement, la sagesse d'en haut est égale, elle est conciliante. Une personne conciliante, ça désigne une personne qui a une attitude qui veut trouver des solutions, qui est prêt à résoudre des conflits de manière pacifique et constructive. Une personne conciliante, c'est une personne qui est flexible, ouverte au dialogue, prête à faire des concessions pour arriver à des accords. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais il faut arrêter maintenant d'être toujours des accords, puis il faut trouver des accords. Comme on dit dans le monde, mets un petit peu de vin, mets un petit peu d'eau dans ton vin. On est tous pareils. Hein, on est tous en même game avec ça. La personne qui est compréhensive est consciente, ça implique de comprendre, de respecter les points de vue face aux autres, pas juste tes propres valeurs, mais prêt à accepter aussi du changement dans ta vie parce qu'on n'est pas parfait. Regarde la personne à côté de toi. Hey, je suis loin d'être parfait. Hey, je suis loin d'être parfait. Hein? Ça a du sens? J'aime la réaction. Alléluia. D'être capable de se soumettre aux autres, de ne pas penser juste comme toi. Amen. Donc, c'est-à-dire, il faut être capable de ne pas juste te concevoir toi, mais de penser aux autres aussi qui sont pas, qui pensent pas comme toi. Puis j'ai le droit de ne pas penser comme toi. Mais je vais te respecter aussi. Donc, si je charge d'accord avec quelqu'un, je vais mettre un petit peu d'eau, un petit peu de vin dans mon vin, un petit peu d'eau dans mon vin. Hein? Donc, la personne qui favorise la coopération, il va arriver à trouver des ententes pour trouver des solutions acceptables en privilégiant la paix et l'entente entre nous. Jacques 3:17, je termine dans quelques minutes, la sagesse en haut, elle est pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc, la sagesse d'en haut est aussi pleine de miséricorde et de bons fruits. Ça nous parle ici de l'amour. On parle sur l'amour un matin, sur les caractères. L'amour du prochain se manifeste par nos actions. Ici, la vraie sagesse qu'on parle, donc, c'est-à-dire que tu ne veux pas tromper personne. Jacques 3:17, la sagesse en haut est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ça va loin, là. La sagesse d'en haut n'a pas d'hypocrisie. Lisez avec moi, j'ai trouvé un beau texte qui nous parle de ça. Là. Le psaume 12, verset 2. Regardez bien qu'est-ce que ça nous dit. 12, 2, hein? Ouais, je n'ai pas donné le bon. OK. Comment, je vais vous lire, vous n'aurez pas le choix, là. Je me suis trompé. Là. On se dit des faussetés les uns des autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On se parle avec un double cœur. Oh, oh, oh. Ce texte nous enseigne, n'ayons pas un double cœur, n'ayons pas un double visage en réalité. Ce que tu dis en arrière, sois capable de le dire en avant. Allô? Moi, ceux qui me connaissent, plus proches, ils savent que si j'ai fait des erreurs, je vais être capable. Parce que dans le ministère, ça m'a appris l'humilité. Et comme je l'ai dit tantôt, on a eu des gants de boxe, ça ne tente plus d'aller là. Aujourd'hui, je suis dans une autre dimension. Mais on doit rechercher cette dimension de dire les choses. Si tu as de quoi comme ton frère, va le voir et règle ta situation. Parle plus en avant, va en avant. C'est pour moi, ça. C'est pour toi, ça. Allô? On est tous en même bataille dans ça. Donc, soyons vrais ensemble. La vraie sagesse en haut, elle donne un fruit. Jean 3, 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Donc, le fruit de la justice n'est rien donc que la sagesse de Dieu elle-même et elle nous procure la paix. D'être ensemble, d'être dans l'unité, ce comportement plaît à Dieu. Vous lirez le psaume 133, vous le connaissez par cœur, que les doux et les frères pour être ensemble, vous le connaissez. L'apôtre Paul nous dit, avec l'avant-dernier verset, là, je n'ai deux à citer, là, Éphésiens 4:3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et encore, si vous rentrez dans l'écriture, dans la profondeur encore du grec, le mot lien, ça nous parle des ligaments. Le corps est rempli de ligaments. Donc, si on bouge, parce qu'on a des ligaments. Si le genou plie, parce que les ligaments, les nerfs et tout ça. Donc, ça nous parle de l'articulation. Sans les ligaments, le corps physique ne marchera pas bien. Et Éphésiens 4:16, la Bible, second 21, l'avant-dernier verset, c'est de lui, Jésus, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations, donc il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, si le corps est bien coordonné, donc nous sommes bien placés pour marcher ensemble. Grâce à l'unité du corps qui fonctionne ensemble, donc ce corps va être en santé. Et nos relations seront fortes pour aller de l'avant. Et surtout, nous serons dans le shalom de Dieu, dans la paix de Dieu. Je termine avec ce passage. J'aimerais ça qu'on se lève ensemble. Ça fait longtemps, là. On prend une petite bouffe. On va se lever. Puis on va lire ce matin une promesse qui doit être dans notre vie, de rechercher cela. On va le lire ensemble. Psaume 122, verset 7 et le verset 8. Lisons tous ensemble, proclamons-nous ensemble, pendant que je vais appeler les musiciens, que la paix, dites avec moi, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Est-ce que c'est bon? Combien recherchent là, ce matin? Que notre famille spirituelle soit reconnue pour un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu de tranquillité d'esprit et un lieu de prospérité à tout égard. Et je termine avec cela. À cause de la famille chrétienne, dis avec moi, je ne veux pas te blesser. Dis avec moi, je ne veux pas te blesser. Je ne veux pas te briser. Je ne veux pas te détruire. C'est ma prière. C'est ça que je veux mettre en pratique. Je ne veux pas briser, je ne veux pas détruire, je ne veux pas médire, je ne veux pas casser mon frère, mais je veux apprendre à l'aimer. Ce matin, sagesse charnelle ou sagesse d'en haut? Amen. Commençons l'année 2025 avec la sagesse d'en haut. Amen. Changeons qu'est-ce qu'il y a à changer et reflétons l'amour que Dieu a pour nous. Reflète cet amour pour l'autre. Alléluia! Dans ces temps de jeûne et de prière que nous avons, je suis béni de voir tout ce qui se passe présentement. on revient. On n'est pas mort, on revient. Dis avec moi, on n'est pas mort, on revient. La résurrection, elle est possible. Alléluia! Jésus a dit à Lazare, sors de là! Hein? Il s'est levé et il est sorti de là aussi. Fait que ce matin, ayons cet esprit de combattant pour changer la malédiction en bénédiction.